Pour information, avant qu'on commence, je suis en train de perdre ma voix à cause des changements de température. Si dans 10 minutes, ça ressemble à du studio Daniel, désolé.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le CNC dévoile les budgets de tous les films qu'il a participé à financer au cours de l'année 2023. Des gros projets à venir, d'autres déjà sortis, mais où va l'argent du cinéma français ? Bah je vous donne la réponse. À côté de ça, l'affiche du film Joker Folie à deux suscite des questions suite à la disparition d'un petit élément reconnaissable entre la version américaine et française. Serez-vous gagnant au jeu des 7 différences ? Et bien entendu, il y aura la question du public et The Omen, la malédiction en français. Le préquel sort en salle ce mercredi, donc petite séance de rattrapage. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui suivent l'émission sur tous les formats. Je vais très très vite parce que j'ai une tétrachier de choses dont il faut que je vous parle avant qu'on commence. Donc merci à tous les gens qui sont abonnés, continuez de vous abonner, mais j'ai trois points où je vais avoir besoin de vous. Donc si jamais ça vous intéresse, restez, écoutez, regardez ce que je vais dire. Ça concerne majoritairement les gens qui se trouvent du côté de Montréal. Désolé, pardon. Parce que oui, déjà, il n'y a pas de micro d'Andrew ce lundi, on n'a plus de micro d'Andrew ni de bistrot en stock, mais on tourne des nouveaux bistrots d'Andrew ce samedi, le samedi 13 avril. Ouais, on s'y prend vraiment super tard pour faire l'annonce. Mais du coup, si vous voulez participer, il y a un formulaire en description, cliquez dessus et allez-y, c'est comme d'habitude, ce sera samedi, donc si jamais vous voulez venir parler d'un film, c'est un peu maintenant ou jamais. Puis c'est toujours cool le bistrot d'Andrew, c'est une bonne ambiance, tous les gens qui ont participé ont envie de revenir, je sais pas si j'en ferai revenir certains, mais en tout cas voilà, si vous voulez participer au bistrot d'Andrew, lien en description. Deuxième point qui en fait va rejoindre le troisième, je fais un tournage un peu secret le samedi 20 avril. Je peux pas vous dire ce que c'est, mais j'ai besoin de deux genres de personnes. Et pour ça aussi, j'ai créé deux formulaires disponibles en description. Ah mais on fait que des formulaires ici, on adore les tableaux Excel. Le premier formulaire, c'est parce qu'on a besoin de figurants. Voilà, de gens juste qui vont venir se poser pour participer au tournage en tant que décor, que figurant. Si jamais vous êtes disponible le samedi 20 avril du côté de Montréal, eh ben du coup, le lien est en description pour pouvoir rejoindre l'équipe figuration. Et on a besoin de figurants, donc si vous avez du temps à tuer et que vous voulez nous filer un coup de main, venez, venez. Par contre, je recherche aussi un comédien ou une comédienne pour un rôle que j'ai pas encore totalement défini. Et du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de tout expliquer comme ça. Mais en gros, si vous êtes comédien ou comédienne du côté de Montréal, et j'en avais déjà parlé sur mon Insta, j'ai déjà reçu des trucs, il y a aussi un formulaire dans la description où je vous dis, bah, envoyez une bande démo, envoyez ce que vous savez faire, et puis on se recontacte, on en discute, si jamais ça vous tente et que vous êtes disponible le samedi 20 avril. Je résume donc trois formulaires en description. Le premier, c'est pour participer au bistrot d'Andrew le samedi 13 avril, et le second, c'est pour soit faire de la figuration, soit être comédien pour un tournage secret le 20 avril. Que de projets, mais aïeux. Oh là là, il se passe des choses, hein. Merci à toutes les personnes qui se donneront la peine de faire ça et merci à tous les gens qui suivent le pire podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Ah, l'argent du cinéma français, un débat qui fait rage et où il y a toujours un débile pour balancer « On finance que de la merde avec de l'argent public !» Alors qu'il s'est même pas divisé par 4 et nous fait croire qu'il comprend des principes d'économie. Trop tôt le mépris, non ? Un poil trop tôt, non ? Désolé. L'argent du cinéma français, c'est une question extrêmement large que j'ai déjà abordée dans plein d'émissions différentes et du coup, je vais vous résumer un petit peu ma position sur le sujet, histoire qu'on commence tous ensemble sur la même base. Est-ce qu'on balance de l'argent par les fenêtres dans le financement du cinéma français ? Non. Est-ce qu'on produit mal et que parfois on répartit trop d'argent à certains et pas assez à d'autres ? Possiblement. Oui, mais le cinéma français, il est jamais rentable de toute façon. Pas jamais et pas besoin, c'est un système vertueux qui s'auto-rembourse avec la TSA. Oui, mais la TSA, parlons-en, je paye un ticket de cinéma et donc du coup, je participe à financer le cinéma. Ils m'ont volé, ces gredins. Alors, la TSA, c'est une taxe sur les tickets de cinéma qui représente 10% du ticket de cinéma, ce qui veut dire que sur un ticket à 10 balles, il y a 1% qui va dans les caisses du CNC pour financer du cinéma. Et si on considère le nombre moyen de fois où un Français va au cinéma par an, à savoir 3 fois, ça veut donc dire qu'en moyenne, un Français contribue à financer du cinéma à hauteur de 3 euros par an. Donc cette fameuse taxe qui te vole, personne t'oblige à aller au cinéma, et si tant est que tu sois dans la moyenne des Français, ça a pris 3 euros dans ton porte-monnaie en un an. Et dernière question, attendez, ça veut dire qu'on pique pas dans les poches des Français pour faire du cinéma ? Ah, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et surtout depuis la suppression de la redevance, ça veut plus dire grand-chose. En vrai, c'est une question super galère parce que on paye tous des impôts. Ces impôts vont à l'État. L'État finance les services publics. Dans les services publics, il y a les télévisions, télévisions publiques. Les télévisions publiques financent des films. Est-ce que ça veut donc dire que mes impôts vont financer des films ? J'aime à croire que je finance plutôt des hôpitaux et des routes, mais bon, chacun fait sa tambouille. Et là, je rentre même pas dans des débats du style l'importance du soft power culturel français, le cinéma qui rend la France ensuite plus forte et donc ça va ruisseler sur d'autres secteurs, que ce soit le tourisme, l'industrie. Putain, j'ai utilisé le mot ruisseler, on est quasiment dans du macronisme. C'est un sujet super épineux. Et quand on sait que la partie commentaire de cette émission va déjà être envahie par des gens n'ayant pas dépassé la grande section de maternelle, on va essayer de se fixer sur des chiffres précis, sur où est-ce que va l'argent. Le CNC vient de révéler la totalité des devis de budget de films auxquels il a participé durant l'année 2023, ce qui correspond à 298 films avec des sommes allant de 43 millions d'euros de budget à 60 000. Ouais, la fourchette est super large. Quand je dis 43 millions, c'est pas le CNC qui a filé 43 millions à un film. Il y a plein de sources de financement. 43 millions, c'est combien le film a coûté au total. Et 43 millions, c'est pas du tout répandu. On considère en France, notamment sur l'année 2022, que le budget moyen d'un film français se situe plutôt autour des 4 millions d'euros. Donc forcément, il y a clairement des gens au-dessus et des gens en dessous. Et je me rends compte depuis tout à l'heure que je parle du CNC en boucle, mais il y a peut-être des gens qui débarquent à qui j'ai jamais expliqué ce que c'est que le CNC. Bonjour, je m'appelle Victor, abonnez-vous. Le CNC, ça correspond au Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui a été fondé en France en 1946 et qui a 6 missions, qui sont résumées sur la page Wikipédia, donc c'est la réponse la plus simple que je peux vous donner. Petit 1, réglementation du cinéma. Petit 2, soutien à l'économie du cinéma et de l'audiovisuel et du multimédia. Petit 3, promotion du cinéma et de l'audiovisuel. Petit 4, protection et diffusion du patrimoine cinématographique. 5e, action européenne et internationale. Et 6e, commission de classification. Autant vous dire que les gars ont du boulot. Et avant qu'on commence vraiment à dire où va l'argent, partons sur la base même de l'argent dont dispose le CNC. On va citer des gros chiffres qui veulent rien dire. Le budget du CNC en 2023 correspond à 711 millions d'euros afin de couvrir toutes les missions qui lui sont attribuées. Alors, ça paraît être une somme énorme là-dedans, il faut payer un paquet de gens, c'est sûr, mais 711 millions d'euros, c'est tiré du budget total du ministère de la Culture, qui lui s'élève à 11 milliards d'euros. Ce qui veut donc dire que le monde du cinéma ne correspond qu'à 6% du budget total du ministère de la Culture. Ça remet un peu les choses en perspective. Et d'ailleurs, parce que des gens vont trouver ça énorme, 711 millions en comparaison d'autres secteurs, par exemple, l'hôpital public, c'est 9 milliards d'euros. L'armée, c'est 43 milliards d'euros. On se perd un peu dans les chiffres. Si on retournait au budget des films, si comme moi, vous aimez les gros documents Excel, je vous ai mis dans la partie description le lien vers le document en entier qui est juste débilement immense. Il y a les 298 films produits en 2023. Je vais pas les citer tous dans les détails, sinon on n'a pas fini. Et puis même dans le document, il n'y a pas que les films produits en 2023. Il y a tous les films français produits avec le CNC depuis 2003. C'est énorme, c'est gigantesque ce doc. Non, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plutôt essayer de vous montrer les différentes échelles de valeur des films et puis surtout ben, vous parler de choses déjà sorties et parfois même pas annoncées, des films dont j'ai découvert l'existence en regardant le document et je me suis dit, mais c'est quoi ce projet, j'ai trop hâte, je veux le voir. Et puis à la fin, on aura le droit à un top 10, à savoir, c'est quoi les 10 plus gros films français financés en 2023. Il y a des surprises à l'intérieur, il y a des trucs, même moi, j'arrive pas encore à me l'expliquer pour de vrai. Et promis, sinon ça va être un peu indigeste de citer des budgets en boucle, je vais essayer de faire des blagues et puis de vous filer du contexte à chaque fois, des détails, histoire que vous compreniez tout. On va démarrer du bas de la feuille, des tout petits films, et puis on va remonter d'étape en étape pour arriver au sommet. Allons-y, c'est parti, où va l'argent du cinéma français ? Concrètement. Déjà, c'est peu étonnant, les tout petits budgets sont majoritairement trustés par des documentaires. On retrouve notamment Service Public, c'est super le documentaire Service Public, voyez-le, de Mouloud Achour et Salia Braclia, qui a coûté 160 000 euros. On est très loin de la moyenne des budgets français à 4 millions, hein. Là on parle de 160 000. Mais sinon, j'ai repéré aussi des documentaires pas sortis dans le bas de la feuille, hein. Notamment le prochain documentaire de François Ruffin, qui s'appelle En deuxième ligne et qui coûte environ 200 000 euros, ou encore un documentaire de Valérie Donzelli, qui a déjà sorti l'année dernière L'amour et les forêts. Et donc il a fait un docu qui s'appelle Rue du Conservatoire pour 200 000 euros. Ce que je vous cite là, c'est vraiment dans tout en bas de la liste des films financés en France. On augmente un petit peu les prix, j'ai repéré un film dont j'avais pas du tout entendu parler, le nouveau Michel Gondry, qui fait un film d'animation avec la voix de Pierre Niney. Ça s'appelle Maya, donne-moi un titre, et ça coûte environ 700 000 euros. Et je le répète encore une fois, hein, 700 000 euros pour Le Commun des Mortels, c'est énorme, mais pour une boîte qui doit gérer de payer énormément de gens, en plus là on parle de travail d'animation, il y a énormément de trucs à faire. Non, vraiment, c'est des budgets qui sont vraiment vraiment tout petit, une nouvelle fois, on n'a pas encore dépassé le million. Genre par exemple, toujours en dessous de 1 million, il y a Yannick de Quentin Dupieux, qui a coûté au total 930 000 euros. Ce qui est un budget extrêmement raisonnable, surtout en comparaison du succès qu'il a eu ensuite. Mais je sais ce qui vous intéresse, qu'on dépasse la barre du million, alors allons-y, dépassons gaiement cette barre du million. 1 million 1, c'est le coût du prochain film d'Olivier Assayas, qui sortira en juin, qui s'appelle Hors du temps, avec Vincent McCain. C'est tout petit, quand on sait en comparaison les budgets des films précédents d'Olivier Assayas, genre Cuban Network avait coûté en 2020 10 millions, et juste avant Personal Shopper en 2016 avait coûté 6 millions. Là, 1 million, ouais non, c'est vraiment tout petit. 1 million 2, les fans de Pacifiction vont être heureux puisque Albert Serra revient, cette fois-ci avec un documentaire qui s'appelle Tardes de Soledad et qui va s'intéresser à la tauromachie. On reste dans les documentaires de réalisateurs connus avec Spectateur d'Arnaud Desplechin, un documentaire qui a vocation à rendre hommage au cinéma et qui est financé à hauteur de 2 millions 1, ce qui est exactement le même budget juste à côté de Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Niclou, qui donc lui aussi est à 2 millions 1. On augmente un peu les tarifs, on passe à 2 millions 4, c'est le coût du nouveau film de Fabrice Eboué, une nouvelle fois une comédie, qui s'appelle Gérald le Conquérant, et dont le pitch me fume à mort, je vais vous le citer. Un illuminé nostalgique du royaume de Normandie souhaite redonner à la région sa puissance d'antan. Il veut bâtir un immense parc historique à la gloire de Guillaume le Conquérant, aidé par un réalisateur de documentaires arriviste. Vous sentez venir la petite polémique là sur le Puy du Fou ? Oh, on va rigoler, on va rigoler ! Dans le giron des 3 millions d'euros, on est toujours en dessous de la moyenne, on retrouve le premier film réalisé par Noémie Merland qui s'appelle Les Femmes au Balcon pour 3 millions 5, c'est sur des nanas qui matent un gars dans un appartement à Marseille. Apparemment c'est une comédie fantastique, ça m'intrigue beaucoup. Après les 3 millions, il y a les 4 millions, on passe une nouvelle barre. Les trois amis d'Emmanuel Mouret, 4 millions tout pile. Ça va être encore une fois une comédie romantique, avec au casting cette fois-ci Camille Cotin ou Sarah Forestier. Je me rends compte que je précise pas depuis tout à l'heure, hein, tout ce que je viens de citer n'a pas de date de sortie. On sait toujours pas quand ça sort. Quand on a des dates de sortie, je vous les donnerai. Je vais vite sur les petits budgets, histoire qu'on atteigne rapidement le top 10, mais tout pile à 5 millions, il y a Vermine de Sébastien Vanisek, que j'ai toujours pas vu, parce qu'il est pas sorti au Québec. Bientôt la sortie VOD, je l'attends très très fort, j'ai hâte de le voir. Et d'ailleurs, si on veut rester dans l'esprit Vermine, mais Nous les Leroys, le premier film de Florent Bernard, avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg, bah lui aussi, c'est un chouille autour de Vermine. Vermine est à 5 millions, Nous les Leroys est à 5 millions 100. Vraiment, c'est quasiment la même. Et je profite de Nous les Leroy pour préciser un autre truc qui se trouve dans le document que je vous cite, c'est qu'à chaque fois, ils te disent aussi quelle chaîne de télé a participé au financement de tel ou tel film. Sur Nous les Leroy, par exemple, c'est Canal+ et TF1. Voilà, ça vous avez l'info. Si vous regardez le document, vous aurez parfois aussi les préachats de plateformes, genre est-ce que Netflix a mis du pognon dedans, est-ce que Disney+ a mis du pognon dedans, etc., etc. On va faire un vrai bond et atterrir à 7 millions. 7 millions, on commence à se mettre vraiment pas mal. C'est le budget du nouveau Fabrice Duvels, Mal d'Aurore, avec Anthony Bajon sur un type qui se lance dans une chasse à l'homme en Belgique pour retrouver un gars ayant kidnappé une gamine. Je suis trop content que Duvels ait un tel budget parce que ses deux précédents films avaient pas très bien marché, avaient eu du mal à trouver leur public alors que c'était des films vraiment formidables. Là, qu'on lui fasse encore confiance et qu'on tente justement un plus gros budget pour un truc qui va peut-être être vendu justement à plus de chaînes de télé et tout. Je crois qu'il est racheté par France 2. Bref, j'ai très hâte de voir Mal d'Aurore. Après ça, c'est un peu épars. On va rapidement arriver à 10 millions. Entre temps, on a le dernier Lajli qui a coûté 8 millions 3. On a le dernier Ducobu qui a coûté 9 millions 6. Tu m'étonnes. Chaque film Ducobu est un succès de ouf en salle. Tiens, question chez vous. Sur les 298 films qui se trouvent dans ce document, d'après vous, combien dépasse la barre des 10 millions ? Sur 298 films, allez-y, je vous laisse le temps de réfléchir à cette question. Sur 298 films produits en France en 2023, combien sont produits avec un budget supérieur à 10 millions d'euros ? 25. C'est moins de 10%. Donc avec nos 25 films, on est quasiment au top 10. Hein. Avant de rentrer dans le top 10, il y a Maison de retraite 2, grosse comédie, gros succès, gros budget donc, il se retrouve à 11 millions 5 de budget. Boléro d'Anne Fontaine, qui est déjà sorti, est à 12 millions 4 de budget. Le prochain film de Michel Hazanavicius, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, c'est un film d'animation qui va sortir en novembre, lui est budgété à 12 millions 4. Le prochain David Cronenberg, The Shrouds, avec Vincent Cassel et Diane Kruger, a reçu des capitaux français et se trouve dans cette liste. Il a un budget total de 13 millions, ce qui est beaucoup moins que son film précédent, Crimes of the Future, qui lui était autour des 27 millions. Mais 13 millions pour Cronenberg, c'est moins que les 15,6 millions de la dernière comédie de PEF. 15,6 millions pour Les Vengeances de Maître Poutifard avec Christian Clavier, un film qui d'ailleurs s'est particulièrement planté. Et là, on en arrive au top 10. La question est donc fatidique. Quels sont les 10 films français les plus chers produits en 2023. Je spoil des trucs, hein, mais par exemple, Les Trois Mousquetaires est pas dedans. Parce que Les Trois Mousquetaires a été produit en 2022. Bah oui, parce que le tournage a été lancé à ce moment-là. Vous comprenez la nuance? La majorité des films que je vais citer, ces films sont pas encore sortis. En dixième place, c'est du cinéma d'animation. Et on sait que l'animation, ça coûte cher. 16,8 millions pour Marcel et Monsieur Pagnol, qui est le nouveau film de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet qui avait notamment réalisé Les Triplettes de Belleville ou L'Illusionniste. Et pour le coup, j'adore le style de Sylvain Chomet. Ça fait plus de 10 ans qu'il a pas fait de nouveau long métrage. Savoir qu'on lui accorde un budget conséquent pour pouvoir développer son style et revenir à l'écran, je suis très très content de le voir en dixième position. 9ème position, Les Chèvres de Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Un film déjà sorti qui a coûté la bagatelle de 19 millions d'euros parce que quand il y a Danny Boone au casting, on se dit vite, on ralasse, on met les billets. Sauf que c'est une des plus grosses plantades de l'année. Un film au budget de 19 millions qui fait 182 000 entrées. Ce sera probablement fin 2024 le plus gros échec du cinéma français de l'année. À une époque, on pouvait miser sur Danny Boone, hein, c'était toujours gagnant, mais là... Ouais, non, la déculottée est assez sévère. 8ème, c'est encore une fois un film d'animation, le nouveau film Hooper, réalisé par le réalisateur belge Benjamin Mousquet. Et comme je vous disais, l'animation, ça coûte cher. Et là, pour le coup, vu que le premier avait plutôt bien marché, il a un budget conséquent sur le deuxième, à savoir 22 millions d'euros. 7ème position, et là, c'est vraiment un moment où je vais commencer à me poser des questions. Emmanuel d'Audrey Diwan, avec Noémie Merlant. Emmanuel d'Audrey Diwan a coûté 23 millions d'euros. Je sais que l'original Emmanuel est un succès monstre qui a duré à travers les années et à travers les années, mais peut-on espérer obtenir le même succès avec un remake? Surtout avec un film qui en 2024 a une imagerie aussi sulfureuse qui va créer des problèmes dans sa distribution, c'est un budget qui est énorme. Faudra voir à l'image la manière dont il est utilisé, mais ouais, je trouve le budget vraiment gigantesque avec... peu de chances que ça se transforme en essai à la fin. En comparaison, par exemple, de la sixième position, qui lui est un succès annoncé, à savoir Monsieur Aznavour, l'un biopic sur le chanteur bien connu avec dans le rôle titre Tahar Rahim, est réalisé par Grand Corps Malade pour un budget de 24,6 millions. Je veux dire, un sujet comme Aznavour, avec la démographie du public qu'on a en France et le fait que Grand Corps Malade a toujours eu des succès en salle, oui, le budget est extrêmement haut, mais il s'explique et on aura une date de sortie en France le 23 octobre. Ça va rouler sur les salles de cinéma. Vous sentez que je perds ma voix, plus l'émission avance, ah, on n'est pas prêt pour la fin. Vraiment, la critique, normalement, je vous la fais en braille. 5ème place, c'est le nouveau film de Jacques Audiard qui s'appelle Emilia Pérez, qui a été produit pour 25 millions d'euros et qui est une comédie musicale policière produite entre la France et le Mexique avec au casting Selena Gomez, Zoé Saldana et Edgar Ramirez. Ouais, je sais, connecter Jacques Audiard et Selena Gomez dans la même phrase, c'est un petit peu bizarre. C'est bizarre, mais ça me chauffe à mort personnellement et normalement, ce sera présent à Cannes cette année, on va très vite pouvoir en reparler. 4ème position, et c'est celle que je trouve la plus improbable et en même temps qui me hype le plus, en 4ème position, on retrouve L'Amour Ouf de Gilles Lelouch. L'Amour Ouf est produit à hauteur de 36 millions d'euros. On vient de prendre une marge de 10 millions dans la gueule, ça n'a aucun sens. J'adore le cinéma de Gilles Lelouch, hein. J'avais adoré son précédent film Le Grand Bain qui avait fait 4,2 millions de spectateurs en salle, qui avait rapporté plus d'une trentaine de millions d'euros en plus, quasiment le budget actuel. Mais L'Amour Ouf, c'est pas le même projet, hein. L'Amour Ouf est vendu comme une comédie musicale romantique ultra violente de plus de 3 heures. Voilà. 36 millions d'euros de budget. C'est gigantesque. Le casting est malade, hein. Il y a François Civil, Adèle Exarchopoulos, Alain Chabat, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Karim Leclou, Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Élodie Bouchez. Je comprends rien à ce film. Enfin, je comprends juste pas comment on peut imaginer qu'avec un tel sujet, une telle prise de risque, on peut taper derrière une nouvelle fois les 4 millions de spectateurs en salle. Mais c'est pas grave, moi je trouve ça super, plus c'est improbable, plus ça me va. J'adore Gilles Lelouch réalisateur, filez-lui tout le pognon du monde pour qu'il fasse des dingueries. Mais ce projet-là, je le trouve inexplicable. Enfin non, il y a plus improbable que je viens de raconter parce qu'il y a un film qui se trouve à la fois à la troisième et à la deuxième place du classement. À savoir le biopic sur le général de Gaulle réalisé par Antonin Baudry, réalisateur du Chant du Loup. Oui, ils ont fait un biopic en deux parties sur le général de Gaulle, chaque partie coûtant 37 millions d'euros, ce qui veut dire que la totalité du tournage a coûté 74 millions d'euros. Pour vous donner une idée, le duo là de biopic sur De Gaulle coûte plus cher que le duo qu'on a eu des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires plafonnaient à 70 millions, là on est à 74. De Gaulle a battu les Mousquetaires. Bien, si vous voulez, une vraie comparaison en plus, il y avait déjà eu un biopic il y a quelques années sur le général de Gaulle avec Lambert Wilson qui était sorti, je crois, autour de 2020, et lui avait coûté 11,6 millions. Là, 74 millions, ah, c'est une autre étape, c'est sûr. Ils ont pété un boulon complètement. En plus, le premier rôle est assez peu identifié du grand public, puisque le général est joué par Simon Abkarian. Et on retrouvera aussi au casting Neil Schneider, Thierry Lhermitte ou encore Karim Leclou. Ce qui me permet de dire, parce que je suis un peu taquin, qu'on reproche souvent au cinéma français de financer que des gauchistes qui veulent raconter des trucs woke sur les migrants. Le plus gros budget du cinéma français en 2023, c'est deux parties sur le général de Gaulle. Je sais pas ce qu'il vous faut. Ah, et du coup, top 1, parce que lui est tout seul, un film dont on a déjà parlé, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Niney. On a déjà fait toute une émission là-dessus, il coûte au total 43 millions d'euros. Que retenir de ces financements ? Rien de très formel, je pense. Petit 1, le cinéma d'animation, ça coûte cher. Et donc, du coup, c'est au cinéma d'animation qu'on attribue les plus gros budgets. Et je vais pas m'en plaindre, je suis content de voir qu'en France, on essaye d'avoir un cinéma d'animation de qualité, un cinéma d'animation puissant, c'est une super nouvelle. Petit 2, dans le top 10 des plus gros films, eh ben il y a que deux comédies. Ce qui nous montre quand même une petite volonté de s'éloigner de la suprématie comédie dans tous les sens et de tenter justement des budgets risqués ailleurs. Petit 3, les plus gros budgets répondent à une certaine démographie. Bah oui, c'est logique, qui fait les plus d'entrées en salle en France ? C'est les vieux ! Et du coup, on leur fait un biopic sur Aznavour, on sort Emmanuel Duformol, on met 70 millions dans la tronche du général. Et je juge pas la qualité des films, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui seront géniaux. Hein. Par exemple, je parlais de Antonin Baudry qui fait le film sur De Gaulle, j'avais adoré Le Chant du Loup, je suis très intrigué de savoir ce qu'il peut faire en se saisissant de la figure du général De Gaulle. C'est juste que, oui, l'offre répond à la demande. Vous voulez qu'un film comme Vermine ait un plus gros budget ? Bah, faut que Vermine y fasse le million d'entrées, et pas 250 000. C'est comme ça que ça se passe. C'est bien, 250 000, hein, c'est très bien pour un film d'horreur français. Mais voilà, d'où les plus gros budgets attribués à d'autres trucs. Et enfin, ce qu'on peut retenir de ce top 10, quatrième et dernier point, L'Amour ouf de Gilles Lelouch coûte 35 millions d'euros, mais ça n'a aucun sens. Comédie musicale ultra-violente de plus de 3 heures. Non mais comme je vous dis, c'est à la fois le film le plus improbable à venir dans le cinéma français, et en même temps, celui qui m'excite le plus. Voilà, vous vouliez savoir où allait l'argent du cinéma français ? Eh ben, il va dans tous ses films, dans toutes ses émotions à venir, pour un public aussi présent qu'exigeant. Je suis content parce que quand on lit tout ça, on se dit putain, le cinéma français est fort, et surtout, il y a une vraie variété. Il y a des trucs que j'ai pas abordés, par exemple, on retrouve dans la liste des cinéastes italiens en déroute, des cinéastes américains mal aimés, qui viennent chez nous demander des capitaux français pour essayer de produire leurs films, parce que la France est encore un espace de liberté pour la création. C'est pas dans l'Italie de Meloni, avec toutes les réformes qu'ils font sur le cinéma italien, qu'ils vont réussir à maintenir des cinéastes là-bas. Ça devient très très compliqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller en salle pour découvrir toutes ces expériences-là. Ils sont là pour vous. Ce serait dommage de les rater. Où est-ce qu'elle en est, la voix ? J'ai un petit doute, là. Ah, je ris de me voir ! Ouais, non, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Je crois que c'est la première fois que je vais aborder dans cette émission un des événements cinéma majeurs de l'année 2024. Non mais c'est très 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 étonnant, je manque à tous mes devoirs en termes de putaclic. Joker Folie à 2 est la suite du Joker de Todd Phillips sorti en 2019, il y a donc 5 ans. Oui, le temps passe vite ma bonne dame, on s'est quand même tapé une pandémie sur la tronche entre temps. Et j'aime beaucoup le film Joker. Oui. J'ai pas changé d'avis, c'est pas parce que entre temps, il y a un paquet d'incels qui ont débarqué avec des pépés de Joker et des phrases du style « c'est trop un film sur ma vie » qu'il faut se mettre à détester un film qui méprise ces gens-là. Ils ont le droit de pas comprendre un film, hein. Ça en fait pas un moins bon film. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié Joker à l'époque, il y a plein d'idées de mise en scène qui m'ont vraiment bluffé. J'aime le parti pris global, j'aime les références très appuyées à Scorsese, c'est un film qui m'a globalement séduit. Et puis j'étais pris de court, c'est-à-dire que le réalisateur il vient quand même de Very Bad Trip. Quand tu vois Joker arriver derrière, Very Bad Trip c'est très sympa, mais tu t'attends pas à ce qu'il te balance un morceau comme ça. Pour en revenir à Joker 2, la petite particularité de ce film, c'est que ça va être une comédie musicale. C'est pas pour rien qu'ils ont engagé Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. Et si on veut parler plus précisément du côté comédie musicale, d'après les retours des projections test, on parle de 15 reprises de morceaux déjà connus. Et normalement, il y a un morceau qui a leak dans le film, on devrait retrouver That's Entertainment, qui est tiré de la comédie musicale Tous en scène, sorti en 53 avec Fred Astaire. Donc c'est sympa, on tease Joker 2, et Joker 2, on va en reparler une nouvelle fois cette semaine, parce que normalement, le premier trailer sort ce mardi, un peu partout sur les internets, donc dans la partie trailer de vendredi, on en reparlera, c'est sûr. Mais si vous suivez l'émission dans sa version vidéo, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je parle à côté de l'affiche du film Joker, la première affiche teaser qui est sortie pour le représenter. Et pour les gens qui suivent la version audio, je vais vous décrire cette affiche. Elle est moche. Ah, faut que je sois plus précis ? C'est le Joker qui danse avec Harley Quinn sur un fond de lumière bleutée. La composition est chiante à crever. Il y a 80% de l'image qui sert à rien. Les personnages sont tellement lisses en détail qu'on dirait un truc fait par IA. Non, voilà, c'est moche. Je peux pas être plus précis que ça, hein. Victor, t'es dur. Non, je suis pas dur. Je suis désolé. Elle est super chiante, cette affiche. Et c'était pareil avec Joker 1. Il en a eu plusieurs des affiches. Celle qui a été la plus réussie, c'est la photo où il est au-dessus des marches en train de danser. J'aime bien la composition. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Par contre, à côté de ça, il t'avait sorti une affiche avec le visage du Joker en gros plan. Eh ben, elle était dégueulasse. Vraiment, cette affiche, on souffle tellement elle est insignifiante. C'est pas forcément l'affiche définitive pour le 2, hein. C'est probablement une affiche teaser. Et il y en aura une autre qui sortira après. Mais malgré que ce soit qu'une affiche teaser, elle a beaucoup beaucoup fait parler à partir d'un petit détail que j'ai pas encore mentionné. Et ce détail n'est pas le fait qu'elle est super moche, ce qui devrait être le sujet principal. J'ai pas tout décrit sur l'affiche, mais dans la main du Joker se trouve une cigarette. Enfin, il y a une cigarette dans la main du Joker si vous regardez l'affiche dans sa version internationale. Parce que si on passe sur la version française, la cigarette dans la main du Joker a disparu, ce qui a entraîné énormément de questions dans ma boîte Instagram de gens qui ont dit « Pourquoi elle a disparu, la cigarette du Joker ?» Je vous promets, c'est un problème vachement plus simple à comprendre que l'histoire dont je parlais il y a quelques émissions avec le sang dans la bande-annonce d'Alien qui un coup il est gris, un coup il est rouge. Oh mon Dieu, c'est censuré en France, on comprend rien. Je comprends toujours plus rien d'ailleurs que je croyais que la censure était en France, mais je suis allé voir un film d'horreur au cinéma, ils ont passé la bande-annonce d'Alien, je suis au Canada et le sang était gris. Alors que je m'apprêtais à voir un film avec du sang partout, non vraiment je comprends rien. Mais dans le cas de la cigarette à Joker, il faut aborder un problème très franco-français. Connaissez-vous la loi Evin ? La loi Evin du 10 janvier 91 tire son nom de Claude Evin, à l'époque ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, dans le gouvernement Rocard, sous la présidence de François Mitterrand. Cette loi a pour but de lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, et pour ça, d'encadrer la publicité concernant ces deux pratiques. Concernant le tabac, la publicité en est totalement interdite, et concernant l'alcool, elle y est fortement encadrée. En d'autres termes, depuis cette loi, t'as pas le droit de foutre sur une affiche une cigarette pour quelque chose qui est promu dans l'espace public. Et du coup, bah, si on veut mettre les affiches de Joker dans le métro, eh ben, on dégage sa cigarette. Voilà. Bye bye la cigarette. Si la cigarette a été censurée, c'est à cause de la loi Evin. Dans l'espace public, tu montres pas des clopes. Tu peux en montrer au cinéma, c'est pas un problème, mais pas pour faire de la pub. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Par exemple, en 94, l'affiche française de Pulp Fiction voit sur l'image iconique de Uma Thurman allongée sur le lit, la cigarette disparaître. Oui, elle n'a plus de cigarette dans les mains entre la version internationale et française. Plus absurde, en 2009, la Cinémathèque française s'est vue censurer son affiche consacrée à l'exposition qu'elle donnait à Jacques Tati, parce que sur la photo, il avait une pipe. Et du coup, ils ont remplacé sa pipe par un petit moulin à vent. C'est créatif. Et à la suite de ça, à peu près à la même époque, 2009-2010, t'as deux affiches de films qui ont été censurées aussi. T'as Coco Chanel et Igor Stravinsky de Yann Kounen, parce que t'avais Audrey Tautou qui fumait une clope dessus, donc l'affiche, elle dégage. Et ensuite, t'as l'affiche de Gainsbourg, Vie héroïque de Johan Sfar, où t'as littéralement de la fumée de clope de partout, c'est Gainsbourg, là aussi, affiche censurée. Et le but ici, c'est pas de débattre de l'utilité ou non de la loi Evin, parce que même moi, j'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Oui, par exemple, je considère personnellement que la clope, c'est de la merde et qu'il faut pas en faire de la pub. C'est un type qui fumait deux paquets par à une époque qui vous dit ça, croyez-moi. Ma voix actuelle, je pense que c'est la meilleure pub qu'on peut faire anti-tabagisme, vraiment. Et en même temps, on parle de la France, un pays où la clope est omniprésente. Il y a des gens qui clopent absolument partout, tu peux pas tourner la tête dans n'importe quelle rue sans voir des gens avec une cigarette au bec. Du coup, l'enlever des affiches pour la rendre moins cool, ok, pourquoi pas, mais elle est quand même partout. Ça fait pas disparaître la clope du quotidien des Français. Absolument pas. C'est un peu prétexte. Mais bref, le but c'était surtout d'expliquer pourquoi la cigarette du Joker, voilà, c'est la loi Evin, et par exemple aux États-Unis, c'est beaucoup moins contrôlé là-dessus, ils peuvent se permettre de mettre une cigarette s'ils le veulent. Et encore, je parle des États-Unis, mais il y a d'autres pays où c'est vachement plus free, genre la Suisse. Je me rappelle il y a 10 ans quand je faisais des allers-retours en Suisse, mais il y avait des pubs pour des clubs partout, il y a des pubs pour des clubs sur des métros. Non mais ça n'avait aucun sens. T'as même le Montreux Jazz Festival qui avait fait une collab avec Lucky Strike pour faire des paquets spéciaux Montreux. Non mais c'est un autre délire la Suisse. Bref, concernant Joker, une cigarette en moins, mais un film qui reste, un film dont on aura l'occasion de parler dans l'émission de vendredi, dans la partie des trailers sympas. On avance.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Il faut que cette émission avance, j'ai plus de voix, mon Dieu. Chaque semaine, qu'est-ce que je dis chaque semaine? Oh, je suis fatigué. Avant chaque émission, je poste une story sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une, vous pouvez passer dans l'émission si j'ai un truc à répondre. Est-ce que je suis en capacité de répondre actuellement? Bref, suivez-moi sur Instagram, ce sera plus simple. Et aujourd'hui, la question nous vient de Thomas Le Certeur qui demande « As-tu vu le premier short film avec Sora? Tu en penses quoi ?» Eh ben, je pense que c'est une fraude et même même que c'est un peu naze. Alors je resitue rapidement Sora pour ceux qui n'ont pas suivi des émissions précédentes. C'est l'intelligence artificielle vidéo qui a été créée par OpenAI, les gens qui ont fait ChatGPT. En gros, le principe, c'est que tu mets une phrase de texte et ça te génère une vidéo en rapport avec cette phrase de texte. C'est pas encore en public et c'est pas tout à fait fini, mais les résultats préliminaires sont très impressionnants. Et tellement épatant qu'il y a un collectif de réal qui s'appelle les Shy Kids, qui aiment beaucoup expérimenter avec l'intelligence artificielle, qui se sont dit « Hey, est-ce qu'on ferait pas un court-métrage entièrement en IA ?» Ce court-métrage, il s'appelle Airhead, et il nous raconte l'histoire d'un bonhomme qui a un ballon jaune à la place de la tête. Et donc tu vas le suivre dans ses mésaventures de la vie, qu'il est pas simple d'avoir un ballon à la place de sa teuté. Mais vous savez ce qui est vraiment pas simple ? C'est de mentir sur le travail effectué. Parce que ce qui est vendu partout, par tous les médias qui disent « Waouh, incroyable, un court-métrage en entier fait par Sora », n'est pas un court-métrage en entier fait par Sora. Vraiment, j'en peux plus des taglines avec marqué « Waouh, incroyable, révolution, entièrement en IA ». Entièrement ? Vous êtes sûr, entièrement ? L'image que vous voyez dans le court-métrage, et encore pas tout à fait l'image que vous voyez dans le court-métrage, a bel et bien, à la toute base, été générée par Sora. Mais par contre, la voix, le texte, et un bon paquet de retouches visuelles sont faites, elles, par des humains. La musique aussi, elle, c'est une musique composée par des humains. Non, en vrai, le pire, c'est toutes les retouches visuelles parce que ça nous est vendu comme de la pure IA et ça, c'est n'importe quoi. Parce que oui, quand tu regardes le court-métrage, le premier truc qui te choque, c'est « Waouh, ils ont été capables de créer une véritable continuité entre chaque image pour qu'il y ait toujours ce mec avec une tête de ballon jaune. » Mais non, ils ont pas réussi. Parce que la techno, elle en est pas encore là. Je vous ai mis en description d'émission un lien qui mène au making-of de ce court-métrage et vous allez vous rendre compte que, alors, il y a eu énormément de retouches déjà pour l'étalonnage, pour créer des effets de pellicule à certains instants dans le film, mais surtout parfois il a fallu modifier l'image en entier. Genre par exemple, ils font leur description à Sora et tout ce qu'ils obtiennent, c'est un mec avec une tête chelou qui court après un ballon rouge. Et ben ils ont effacé la tête du mec, ils ont enlevé certains artefacts, ils ont remplacé le ballon rouge par un ballon jaune et ça a donné le résultat final. Parce que Sora, elle est un peu con. C'est-à-dire qu'elle, elle pense pas en continuité, elle pense pas justement entre rapports, entre chaque plan, à l'histoire qui se raconte dans sa globalité. Non, ça l'intéresse pas. Parce que Sora, elle a aucune foutue idée de ce que c'est que la mise en scène, de ce que c'est les raccords. Non, elle copie des choses qu'elle a vues ailleurs à partir de données algorithmiques qu'on lui a filées. Et du coup, s'il y a pas une touche humaine, ça va rapidement partir en couille. Parce que Sora est toujours en développement. Et comme je disais, même si les résultats sont déjà très impressionnants, oui, bah, il va falloir encore énormément de boulot pour essayer d'atteindre ne serait-ce qu'un bribe de ce qu'on peut faire véritablement avec une vraie caméra. Parce que oui, encore une fois, je le dis, c'est impressionnant, mais quand je regarde ce court-métrage que vous m'avez tous envoyé en mode « c'est quand même dingue, ouais, c'est dingue technologiquement », mais ça m'intéresse pas. C'est fou comme ça ne me touche pas, comme je trouve que ça n'a aucune âme. Je vois des plans préconçus qu'une intelligence artificielle a reproduit piqué ailleurs via d'autres données, et du coup, bah ouais, je vois aucune idée construite, je vois aucune réflexion sur la mise en scène. Je vois juste une copie d'une copie et je suis pas emporté. J'arrive pas à rentrer dedans, je ne vois que les défauts. Je vois que le réel qui est singé pour essayer de faire illusion et qui donc forcément ne me donne aucune émotion. Et en vrai, je crois que plus le temps avance, plus mon point de vue sur l'IA peut être composé en trois parties très simples, à savoir que j'aime l'aspect gadget, il faut qu'il y ait de la régulation pour éviter que ça parte en couille, et arrêtez de vous prendre trop au sérieux, je vous en supplie. Genre ce week-end, j'ai découvert une IA qui fait des chansons. C'est-à-dire que je lui ai écrit les paroles d'une chanson, et paf, elle m'a fait le morceau complet, avec la voix et la musique dans le style que je lui avais demandé. J'ai écrit une chanson d'amour à Godzilla. D'ailleurs, si ça vous étonne, elle est disponible en intégralité sur mon compte Instagram. Tu marches sur ton cœur comme sur mon cœur, en souffle atomique, c'est mon seul bonheur. Mais après avoir fait ça, je me suis dit les trois parties que je vous ai citées avant, à savoir, waouh, c'est un gadget amusant, il faut vraiment de la régulation pour que ça parte pas trop en couille du côté des musiciens. Et, oh mon dieu, je suis incapable de faire musicalement ce qu'a fait cette IA. À la limite, j'ai écrit des paroles, mais je vais pas, parce que je fais quatre chansons en ligne, dire « Ouais, tu vois, moi je suis un peu réalisateur musical AI digital, tu comprends ?» C'est un peu comme les gens qui disent « Moi, je suis photographe AI. » Ta gueule, ferme ta gueule. En fait, ce qui m'énerve le plus quand je vois ce making-of, c'est que les gens se prennent méga au sérieux, quoi. Alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est générer des images qui étaient moches et être obligé de les corriger en boucle et en boucle et en boucle et en boucle parce que l'IA était pas foutue de leur faire, mais ils l'ont vendu comme un truc full IA. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être dingue, mais arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de vous considérer comme des réalisateurs quand vous faites ça. Mais je le dis très premier degré parce que penser que le travail d'un réalisateur, ça consiste à ça, c'est oublier que le premier métier d'un réalisateur, c'est gérer des aspects humains. À savoir ceux qui se déroulent à l'image, mais aussi sur un plateau. C'est ça le boulot d'un réal. Pour être réal, apprenez à parler, apprenez à communiquer, apprenez à gérer des aspects humains. C'est ça le plus important dans le boulot d'un réal. C'est pas faire ce qu'ils font avec de l'intelligence artificielle là. Donc à mes yeux, le court-métrage Airhead, c'est une vitrine marrante qui fait tout pour cacher l'entièreté de ses défauts de fabrication et qui permet à des gens de péter plus haut que leur cul en se croyant réalisateur. Alors qu'encore une fois, se croire réalisateur en délaissant tous les aspects humains de la création, ouais, non, je suis pas convaincu. Voilà, allez le voir, allez jeter un coup d'œil, vous me donnerez votre avis, mais je ne vois que des images impersonnelles où l'humain a disparu, et ça ne m'intéresse pas. Voili, voilou, voilà.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et dans l'émission de vendredi, c'est pas moi qui prends la parole si j'ai encore de la voix. Non, ce sera vous. Parce que je vous demande d'envoyer des audios à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com si t'as pas eu le temps de noter. C'est en description. Parle-moi du film que tu veux, j'écoute tous les audios. Et ensuite, j'en choisis un pour passer dans l'émission. Donc n'hésite pas à en envoyer, vas-y. Et aujourd'hui, ensemble, on va se faire une petite séance de rattrapage. On va partir au milieu des années 70 pour frissonner. On va parler de The Omen, en français, La Malédiction.
Gregory Peck, Lee Remick, The Omen.
I was at the hospital, Mr. Thorne, the night your son was born.
Bon, si j'avais envie de vous parler de ce film, c'est parce que mercredi, en salle, va sortir le préquel de ce long-métrage, à savoir The First Omen, qui a été traduit en France par La Malédiction, les origines. Et du coup, bah, ce serait pas mal de savoir un peu d'où ça vient, La Malédiction, à la base. J'ai déjà vu d'ailleurs The First Omen, là, le préquel. Et on en parle dans l'émission de mercredi. Oui. Je fais du teasing de teasing. La Malédiction, donc, c'est à la base un long-métrage de 1976 réalisé par Richard Donner, avec dans le premier rôle Gregory Peck. Mais il n'est pas tout seul au casting, hein, il y a aussi notamment Patrick Troughton, qui est le deuxième Docteur Who. Oui, il joue un prêtre bizarre dans le film. Et si vous ne savez pas qui est Richard Donner, c'est un type qui réalisera ensuite Superman, L'Arme Fatale, Les Goonies. Ouais, c'est pas Jules Rigolo. Le pitch, c'est un couple dont le mari est ambassadeur des États-Unis en Angleterre, qui va adopter un gamin aux origines inconnues, et problème, c'est que le gamin, en grandissant, il va se passer des événements chelous autour de lui. Genre des événements où des gens décèdent. Et plus ça arrive, plus ça commence à questionner la famille, qui va petit à petit avoir une hypothèse improbable en tête, mais de plus en plus plausible, à savoir que le gamin n'est pas juste un gamin, mais la résurrection sur Terre de l'Antéchrist. Et avant de raconter plus de trucs, je vais pas faire le bonhomme qui connaît le film depuis des années, blablabla. Non, je l'ai rattrapé, je l'avais jamais vu, pour aller voir justement le préquel en salle. Et en voyant La Malédiction, le tout premier de 76, je me suis dit, putain, c'est vachement bien. Si je devais le vendre de manière un peu simple aux gens de ma génération, je dirais, c'est Destination Finale chez les Curtons. Voilà, c'est Destination Finale Origins. C'est des gens qui essayent d'échapper justement à une malédiction, d'échapper à une mort certaine, et c'est toujours un peu en vain. La Malédiction étant d'ailleurs interprétée ici par un petit gamin qui passe son temps à faire les gros yeux et à t'observer dans les coins, il est super flippant. J'ai été beaucoup séduit par les idées plastiques du film, et si je cite Destination Finale, franchement c'est pas en vain parce que j'aime beaucoup aussi la manière dont est représentée la violence dans le film. Il y a 2-3 passages vraiment gore, vraiment puissants, vraiment prenants qui m'ont étonné, notamment un avec un accident de voiture dans la dernière partie du film auquel je ne m'attendais pas du tout, que je ne spoilerai pas ici, mais où je me suis dit, ok, tu oses, film, tu oses réellement. Parce que tu vas suivre que des personnages qui, pendant 2 heures, sont ballottés entre l'idée de croire ou de pas croire. Et malheureusement, que tu te mettes à croire ou non, que tu te mettes à te battre avec ta croyance ou pas, à la fin, c'est toujours un peu trop tard. Je parlais d'idées graphiques, d'ailleurs, je suis particulièrement séduit par une idée dans le film, c'est un personnage de photographe qui commence à se rendre compte que quand il prend en photo des gens liés à la malédiction, et ben sur les clichés avant que les gens meurent est déjà représenté la manière dont ils vont être tués. Il y a déjà des indices, des ombres, des choses comme ça. Je trouve que c'est une des meilleures idées du film. Et je peux pas m'empêcher, mais ça c'est mon petit truc, d'y voir quand même un certain fond politique, parce que La Malédiction, ça bat sur tout le monde, mais elle y va en crescendo. Elle commence par les strates les plus basses de la société, et puis petit à petit va monter, jusqu'à arriver aux véritables notables. Il y a aussi tout le lore que le film installe, parce que ça reprend des éléments de la Bible, hein, à savoir notamment la marque de la bête, 666, etc. Mais c'est ce film-là qui l'a vraiment démocratisé dans la culture populaire, et qui fait que le 666 qu'on connaît tous aujourd'hui est aussi présent actuellement dans nos esprits. En fait, c'est à la fois un véritable précurseur stylistique qui arrive à conjuguer autant l'inspiration qu'il peut prendre de films précédents comme Rosemary's Baby, comme L'Exorciste, etc., mais qui va réussir à tracer sa propre voie et ensuite essaimer dans tout le cinéma d'horreur moderne. Et puis la musique aussi, elle est super oppressante, elle est signée par Jerry Goldsmith. Voilà, je vous encourage ne serait-ce qu'à écouter la musique avant de vous lancer dans le film, elle est vraiment sublime. Ça vaut d'autant plus le coup de rattraper le premier film, La Malédiction, parce que La Malédiction, les origines, qui sort en salle actuellement, qui est son préquel, il fait parfois référence. Ça se déroule avant, hein, tu peux le voir sans avoir vu l'original, mais ce serait quand même dommage de rater 2-3 références à l'intérieur plutôt malines. Je suis heureux en fait que le nouveau soit sorti pour me pousser à découvrir celui-là qui traînait dans ma watchlist depuis très longtemps en mode putain, faudrait vraiment que je vois ce film. Enfin, j'ai pu le rattraper et c'était une super découverte. Alors par contre, de ce que j'ai compris, il y a 3 suites au film La Malédiction et aussi un remake qui est sorti en 2006 et d'après les notes que j'ai eu passer, Globalement, tout le monde dit que c'est de la merde. Je ne m'engage pas sur ces films-là, je vous ai conseillé que l'original, pas le reste. Mais en tout cas, c'est une super découverte horrifique à découvrir avant de foncer en salle voir le préquel mercredi. Oui, j'ai bien dit que vous devriez foncer voir le préquel en salle ce mercredi. Je pèse mes mots et je n'en dis pas plus. Mais quelle surprise. J'encourage à avoir un préquel, ça a bien changé le pire podcast. Hein. Depuis que je perds ma voix, je suis plus la même personne. Je vous explique tout ce mercredi. Voyez la malédiction et ayez de la hype pour ce qui débarque dans vos salles de cinéma.
If this is the truth, where does it end?
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Je tiens sur la corde, là. Je sais, en fait, que vu que mes cordes vocales sont chaudes, tout va bien et tout, ma voix continue à tenir. Mais dans une heure, quand je serai en train de faire le montage, j'aurai plus rien. Là, ce que vous entendez, c'est mon dernier signe de vie vocale. Je vais boire du miel, de la tisane dans tous les sens. J'espère être de retour en pleine forme pour l'émission de mercredi. Je croise les doigts. Sinon, je vous préviens, vraiment, je fais tout en langage des signes. Bref, on se retrouve mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.